Wake up. Réveillez-vous.
Je crois que par trois fois a été prononcée cette expression en anglais. Et je crois que ça nous concerne tous. C'est le temps de nous réveiller, d'être bien éveillés. On va, si vous voulez bien, faire une première lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, à compter du verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous avons tous entendu parler de Zachée, à qui Jésus fait cette déclaration, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et d'emblée, j'affirme qu'il y a peut-être la nécessité que le salut entre aujourd'hui dans la maison de l'un ou de l'une d'entre nous, car il y a urgence. Car il y a urgence. Jésus n'interpelle-t-il pas Zachée par ses paroles ? Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je fasse de ta maison mon domicile. Alors, quelques mots sur Zachée. Zachée n'est pas l'homme idéal. On voit par la suite du texte qu'il met quelques petites pièces dans sa poche ou quelques billets. Ce n'est pas l'homme idéal. Car il est d'ailleurs précisé qu'il est aussi de petite taille. Ça peut être un handicap. Ça peut donner des complexes. Donc il y a mieux. Il est dit aussi qu'il est riche. De plus, il est chef des publicains, c'est-à-dire percepteur-chef, pour le compte de l'occupant romain. Zachée n'a pas bonne réputation. Il le confesse à Jésus, disant que l'une de ses résolutions, c'est « si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple ». Pas mal. Et il éprouve le besoin de donner la moitié de ses biens. Une conversion authentique, c'est cela. Mais la manière dont il a bâti sa fortune laisse à désirer, exigeant le versement de l'impôt au nom de l'administration romaine. On peut imaginer que, comme je le soulignais tout de suite, il mettait dans sa poche, au passage, quelques pièces, quelques billets. Cela fait de Zachée un homme pécheur, par voie de conséquence, un homme perdu. Zachée avait urgemment besoin du salut de Dieu. Il était dans son arbre. Peut-être se cachait-il derrière les feuilles de cet arbre. C'était une situation inconfortable, mais on dirait aujourd'hui il est dans sa bulle. Bulle qui peut porter le nom de philosophie, de religion, bulle de la finance, bulle du plaisir, la bulle du jeu. La mienne, ma bulle à moi, parce que le Seigneur m'a pressé de descendre, c'était la musique. Alors, je tiens à préciser, bien évidemment, vous n'avez rien à voir avec la manière indélicate d'agir de Zachée. J'ai devant moi des gens honnêtes. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas seulement que Zachée ou ceux et celles qui lui ressemblent qui sont voués à la perdition éternelle. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, ce qui est dramatique. Il est déclaré dans Romains 3, verset 23, « Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il est de mon devoir de rappeler que ce mal nous affecte tous. Jésus ne dira-t-il pas « Entrez par la porte étroite car large » et la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et bon nombre s'y engouffrent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un salut dont Dieu est à l'initiative, c'est-à-dire l'auteur, et dont l'exécuteur n'est autre que son Fils, Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle doit être portée à la connaissance de tous les hommes. Les prophètes en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, leur fut d'ailleurs révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. J'aime beaucoup ce passage lorsqu'il est dit « choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard ». Ce qui laisse entendre que ce salut va bien au-delà de ce que l'on peut en dire ou en comprendre. Nous allons faire une lecture dans 1 Pierre, si vous le voulez bien, 1 Pierre 1, versets 10 et 12. Donc, c'est les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. On fait de ce salut l'objet de leur recherche, et c'est ce dont je voudrais vous entretenir ce matin, du salut de Dieu. Alors j'ai pris le mot « salut », j'ai pris chaque lettre, et devant chaque lettre, j'ai mis un mot. S comme salut, A comme amour, L comme louange, U comme unique et T comme tout accompli. Alors la méthode est simple, hein. Mais c'est vrai que intervenant après que Jean-Marc, notre frère Jean-Marc Tebois, soit venu nous enseigner pendant de nombreuses heures, mais cette méthode qui est toute simple, me permet de faire ressortir des vérités essentielles. Et je pense que c'est ce qui est important, relative au salut. Alors soyez indulgents envers moi, mais je vais me répéter. Il y a urgence, n'y a-t-il pas urgence aujourd'hui que le salut entre dans la maison de quelqu'un parmi nous, c'est-à-dire dans l'intimité de son cœur. Cette pensée n'a pas cessé de me soutenir tout au long de cette semaine alors que je mettais mes notes. Avant de décortiquer ce mot ensemble, avec la méthode dont je vous ai parlé, la définition du salut, c'est échapper à un danger, à un malheur. C'est peut-être aussi, c'est ce que dit le Robert, recouvrer un état de bonheur antérieur. Pas mal. Recouvrer un état antérieur de bonheur. La religion judéo-chrétienne est reconnue comme une religion de salut, c'est-à-dire entièrement basée sur le fait que l'homme, voué par la chute à la mort et à la perdition éternelle, a besoin d'être racheté et sauvé par l'intervention d'un sauveur divin. Cette religion judéo-chrétienne se différencie ainsi d'une simple morale religieuse qui donnerait des conseils de bonne conduite, préconisant l'amélioration de la condition de l'homme par ses propres efforts ou ses moyens. Elle est également à 100 lieues, cette religion, d'un déisme froid dont la lointaine divinité serait indifférente au sort de ses créatures. C'est ainsi que le Nouveau Testament présente Christ comme l'unique sauveur du monde. Et non simplement comme un maître, comme un ami, comme un modèle. Il est le maître, il est l'ami. Il est le modèle, mais avant tout, il est le sauveur du monde. Et il doit devenir, peut-être pour quelqu'un parmi nous, son sauveur personnel. Alors, est-ce comme salut ? On y va ? Est-ce comme salut ? Il y a une perdition éternelle, d'où la nécessité d'être secouru pour échapper à cette perdition. Dieu a mis en œuvre un plan de sauvetage qui englobe tous les hommes, sans distinction de couleur, de race, d'ethnie, de rang social, de sexe, pour échapper à cette perdition éternelle. Je le dis lorsqu'il m'est demandé de témoigner ou que l'occasion se présente, et j'en rougis de honte, avant d'avoir connu, que me soit révélé la révélation de ma condition d'homme pécheur comme les autres. Oui, j'avais besoin de me l'entendre dire. Comme les autres. J'avais une bonne opinion de moi-même et je me disais, écoutez bien, Et je me disais, dans mon for intérieur, si je ne suis pas sauvé, qui le sera ? Terrible ! Quel orgueil ! Et c'est bien l'orgueil qui met l'homme loin de Dieu, qui l'éloigne de Dieu. Si je ne suis pas sauvé, qui le sera ? Et par un soir de juin 70, l'Évangile m'est parvenu comme un pavé en pleine figure, comme une violente gifle. Ah oui. Là, j'ai été dégrisé. Hein. J'ai pris conscience que j'étais perdu. J'ai pris conscience que moi, Guillon, j'étais perdu. Moi, Jean-Louis, j'étais perdu. David, lorsqu'il fuit seul et se réfugie dans une grotte, s'écria « Du ciel, Dieu m'enverra le salut, bien que celui qui me harcèle me poursuit, se répande en outrage. » La Bible ne nous parle peut-être pas d'un être maléfique, ennemi juré de Dieu et ennemi juré des hommes, les poussant à pécher. Elle le désigne comme étant le malin, celui qui ruse, le menteur, le meurtrier dès le commencement, le prince de la puissance de l'air. Et vous l'avez reconnu, il s'agit de Satan, le diable, qui est assisté de démons, c'est-à-dire d'anges déchus, et il poursuit inlassablement son œuvre de haine et de destruction, cherchant à entraîner dans la mort le plus grand nombre d'entre nous. C'est une réalité. Il harcèle, je crois que le terme est juste, il harcèle les croyants que nous sommes. D'ailleurs, n'est-il pas dit qu'il est l'accusateur des frères ? Alors il y a cette exhortation de la parole, résistez-lui et il fuira loin de vous. Résistez-lui, résistons-lui. Mais il apparaît clairement ainsi de la nécessité d'un sauveur face à cet être méchant et à ces démons qui s'en donnent aujourd'hui, nous le voyons de nos yeux, à cœur joie. Car il faut savoir que quand il y a du sang qui est versé, quand il y a crime, quand il y a adultère, quand il y a mensonge et honte, quand il y a tout ce que nous entendons malheureusement tous les jours, dès que nous tournons le bouton du poste de radio, que nous allumons notre télévision, il faut savoir que quand il y a ces choses, il y a des démons qui sont là. Et il faut que Dieu nous délivre de ces démons et de ces puissances. Alors, est-ce comme salut ? Est-ce comme sauveur ? Le prophète Zacharie parle en ces termes de Jésus. Il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a suscité un puissant sauveur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Luc 1, versets 68 à 71. Et puis, au verset 77, 78, 79 de ce même chapitre, nous lisons « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Et ceux qui connaissent les Écritures savent que le soleil levant désigne la personne bénie du Seigneur Jésus. C'est du côté de Dieu qu'est le salut, auprès duquel précisément se tient Jésus. Abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et était élevé à la perfection par les souffrances et élevé le prince de leur salut. Hébreux 2:9. Jésus est le sauveur qui nous sauve. Et il n'y en a pas d'autre. Jésus est le sauveur qui nous sauve. La lettre A maintenant, comme le mot amour. Vous êtes d'accord ? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce salut dont nous avons tous besoin trouve sa source uniquement dans le cœur de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ? Elle trouve sa source dans le cœur de Dieu. Le salut est le fruit de la pensée de Dieu et de l'amour de Dieu qu'il nous porte. Si l'on pose l'équation pour connaître l'équivalence du mot salut, un seul mot suffit, c'est le mot amour. Salut égale amour, sous-entendu de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Chacun d'entre nous ici, vous m'entendez bien, chacun d'entre nous ici est aimé de Dieu. Parlant des rachetés que nous sommes, l'apôtre Jean écrit, « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Vous ne dites pas « Alléluia », mais c'est merveilleux. Nous sommes appelés enfants de Dieu. La lettre A comme le mot « acquis », acquisition. Ce salut nous est acquis et il n'y a rien à y ajouter. Pour le posséder, nos œuvres ou bonnes actions, des indulgences, des privations, nous sommes en temps de carême pour certains, des privations, les pèlerinages, tout cela n'y peut absolument rien et ne peut nous décrocher la moindre parcelle de salut. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les bonnes actions. Ce salut devient effectif dès l'instant où nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est très clair, hein ? Je suis simple, hein ? Mais c'est bon de se rappeler ces choses. Celui qui croit à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie, il ne vient point en jugement, c'est aussi simple que cela. On va passer à la lettre L, comme louange. Quand le salut entre dans un cœur, il pousse ce cœur à louer Dieu. Hommes et femmes se surprennent à louer le Seigneur. Ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, ils se surprennent à louer le Seigneur. Des hommes et des femmes, pour certains, qui ont levé le poing vers Dieu, jusqu'à blasphémer son nom. Je me souviens quand j'étais dans la vie active. Maintenant, c'est une autre activité que nous avons, Agnès et moi, car nous ne sommes pas en retraite, nous sommes actifs dans le Seigneur. Alléluia. Bon, parce qu'Agnès, c'est un mot qu'elle n'aime pas, c'est un vilain mot, le mot retraite. Donc, certains jusqu'à blasphémer son nom. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui ne peuvent pas dire trois phrases ou quatre sans blasphémer, sans prononcer le nom de Dieu. C'est terrible, c'est terrible. Et voilà que ces gens qui levaient le poing, qui blasphémaient, deviennent pacifiques et ne tarissent plus d'éloges envers Dieu et envers son Fils, Jésus-Christ. Voilà que ces hommes se rassemblent, comme nous l'avons fait ce matin, pour offrir à Dieu un culte, offrir à Dieu un sacrifice de louange avec des lèvres qui confessent son nom. Ils en éprouvent le besoin car dans leur cœur est né un amour pour Dieu, pour les frères et les sœurs, amour fraternel, c'est quelque chose, pour le monde, pour leur prochain, pour le Seigneur Jésus qui les a sauvés d'une manière parfaite. Alléluia. Elle comme louange. C'est dire le merveilleux de ce salut et l'impact qu'il a dans la vie de ceux et celles qui l'expérimentent. La Bible nous parle de nouvelle naissance, pas moins que cela, de nouvelle création, de toutes choses qui deviennent nouvelles. Quand même merveilleux, hein ? Alors on va poursuivre. Le mot « elle » comme « lumière ». Qui veut goûter au salut de Dieu doit accepter la lumière de Dieu dans son cœur, jusque dans les replis de celui-ci, car aucun département de sa vie ne doit échapper, être soustrait à cette lumière. L'on ne peut rien cacher à Dieu. Vous voyez, Zachée, lui, il était dans son arbre, derrière les feuilles, il se dit, je vais le voir, mais il ne va sans doute pas me voir. Il espérait ne pas être vu, sans doute. On peut penser. Eh bien, Jésus, lui, il s'arrête juste là. Puis il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. C'est pareil. Nathanaël qui se trouve sous son figuier, tranquille. Jésus le verra. Là, tranquille. On ne peut rien cacher à Dieu. Cet exercice est salutaire, indispensable, il est bon de s'y plier. Ne courons pas le danger d'être rejetés au jour du jugement pour ne pas avoir une fois pour toutes réglé cette question du salut, de notre salut, en refusant que Dieu fasse toute la lumière dans notre cœur, dans notre vie. Elle, comme libre, j'aurais pu développer aussi ce point, comme libération. Mais on va passer à la lettre U, comme unique. Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, désigne Jésus comme seul sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà qui a le mérite d'être clair, hein, j'insiste, mais... C'est vraiment très clair. Les hommes ont cru bon de compliquer les choses en associant à Jésus le nom de Marie. Waouh, quel mensonge! Ils ont fait de Marie la co-rédemptrice, c'est-à-dire l'associée du Seigneur Jésus. C'est un mensonge théologique. C'est un mensonge théologique savamment entretenu par les croyances nationales, régionales, tout cela n'est que du folklore. Et ça ne mène nulle part, si ce n'est en enfer. Faut lire les choses comme elles sont. Écoutez ces quatre références que je vous donne, tirées des évangiles. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu, Luc 19, 10. La deuxième, il, Jésus, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais les sauver, Luc 9, verset 56. Autre référence, Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde, 1 Jean 4, verset 1. Et une dernière référence. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui nous a suscité un puissant sauveur. Luc 1, verset 69. eut comme universel. Je me répète, le salut de Dieu est pour tous les hommes de tout pays, de toute race, de toute ethnie, de toute langue. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, tous sont invités et pressés à croire en Jésus, le Fils unique venu du Père, Dieu ne faisant exception de personne. Ce salut a pouvoir de transformer la vie de n'importe quel homme, quelle femme, et de lui donner un avenir éternel. Il n'y a pas d'être supérieur ou inférieur. Il n'y a pas de riche ou de pauvre, de notable ou d'insignifiant, d'instruit ou de, je cherche le terme, d'ignorant. Voilà, merci. Il n'y a pour Dieu que des hommes et des femmes qu'il aime tous d'un même amour. Il y a ce petit cœur que j'ai appris, ça a été le premier cœur que j'ai chanté quand je me suis converti, quand nous nous sommes convertis, Agnès et moi. Je me rappelle, il y avait un pasteur à Avranches qui avait une trompette et il faisait une pause et il se mettait à reprendre le refrain. C'était magnifique. Ce n'était pas un grand trompettiste, mais il y mettait du son. Hein, ça nous a marqués. Ce cœur dit « Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux est son amour. » Et l'une des strophes, « Ô le grand amour de Dieu si vaste et infini, voyez le Christ, le Fils de Dieu, pour nous donnant sa vie. Ô l'amour si grand du Seigneur, il doit mourir pour des pécheurs. » J'ai plaisir et je suis ému en même temps de me rappeler ces paroles et de vous les laisser. Il est dit que s'il fallait écrire ce que Jésus a fait dans la vie des chrétiens que nous sommes, tous les livres de la terre n'y suffiraient pas, les témoignages sont nombreux. On va passer, si vous le voulez bien, à la lettre T, parce qu'il faut peut-être avancer. T comme, et c'est le mot grec que j'ai retenu, tétélesté, et qui est traduit dans nos Bibles par « tout est accompli », mais qui peut se traduire aussi par « acquitté ». Je crois que ce « tout est accompli » est la parole la plus importante que Jésus ait prononcée à la croix. Au point que l'un des deux brigands qui entoure Jésus à la croix et qui est en train de mourir et de payer sa dette envers l'humanité, parce que c'est un criminel, s'entendra dire « aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » L'immédiateté du salut. C'est quelque chose. Hein. Ah, c'est pas hypothétique. Hein, c'est attendre de voir quand tu passeras de l'autre côté. Non. Le salut est immédiat dès l'instant où on croit. Et on n'en connaît que peu de choses, car il est dit dans un passage prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est-à-dire que quand les choses vont devenir de plus en plus difficiles, dramatiques, catastrophiques, le salut de Dieu sera toujours là, présent. Et c'est alors que nous pourrons comprendre toute sa valeur. Zachée a reçu lui aussi l'assurance de la bouche même de Jésus que tout était en ordre désormais pour lui, à partir de l'instant où Jésus est entré dans sa maison, c'est-à-dire dans son intimité. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Accepteras-tu que Jésus, aujourd'hui, entre dans ton cœur, dans ton intimité, afin qu'aujourd'hui soit un jour nouveau ? Nous avons une dette envers Dieu. tant que nous n'avons pas fait la paix avec Dieu. C'est une dette énorme qui met un fossé que nul ne peut combler. Et le drame de l'homme, c'est qu'il ne peut s'en acquitter seul. Ni vous, ni moi ne pouvions effacer l'ardoise écrite. Mais Jésus est venu dans le monde pour l'effacer, et à la croix, par son sang, il a effacé chacun de nos péchés, chacun de nos forfaits. Et la dette n'est plus. Ce qui fait que celui ou celle qui croit au Fils unique de Dieu comme étant son sauveur personnel est acquitté, tétélesté. Son sacrifice, comme nous l'avons entendu dans la bouche de notre sœur, ou comme cela a été dit, son sacrifice n'est pas virtuel. Amen. Son sacrifice n'est pas virtuel. Comment écrivez-vous la lettre T ? Comment écrivez-vous la lettre T ? Il y a une barre verticale d'abord, verticale, et il y a une barre horizontale. On est bien d'accord ? Ça ne vous fait penser à rien ? Michel l'a dit, ça fait penser à la croix. Le salut est étroitement lié à l'œuvre de la croix. C'est le passage obligé, cela nous a été rappelé, je crois, par la bouche de Michel, le passage obligé pour quiconque a le désir d'être sauvé. La croix est l'œuvre majeure accomplie par Christ en venant sur la terre des hommes. Et c'est précisément par cette mort qu'il a connue que nous est acquis un salut, le salut. Si je vous disais autre chose, si je vous avais dit autre chose ce matin, j'aurais failli gravement à mon devoir. Lorsqu'on se pose la question de savoir s'il y a une alternative pour échapper à cette perdition éternelle, en négligeant ce salut, comme cela est écrit, non. Il y a une colère à venir à cause de la pratique du péché et de notre complaisance à l'égard de celui-ci. Alors comment échapper à cette colère divine en regardant au mourant du calvaire, c'est-à-dire à Jésus, en considérant que nous ne sommes pas assez forts pour résister au mal seuls, par nous-mêmes, mais que Jésus a fait de nous des vainqueurs et non des vaincus, que notre âme doit retrouver sa beauté première, son état originel, lorsque Dieu nous fit à son image. Et si cela n'est déjà fait, il y a l'aujourd'hui de Dieu, il y a un nettoyant efficace pour cela, le sang de Jésus. Jean de s'écrier, voici, montrant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors on va terminer peut-être, mais je voudrais quand même vous dire quelques petites choses en témoignage. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On va y revenir, mais je crois que nous y sommes en ces temps de la fin. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est quand même simple, à l'image de ma prédication. J'ajouterai en conclusion, quand nous sommes arrivés en vrac dans l'église, dans cette église, l'église de Kevin, Agnès et moi, nous n'avons pas connu que du drame auparavant. On a connu de bonnes choses quand même. Il faut être juste. Notre pasteur, ancien pasteur, fut un navigant dans la marine de commerce et un voileux aguerri, ayant à son actif quand même 2 tours du monde complets à la voile. C'était un homme entreprenant. Et nous avions à l'époque mis sur pied une association appelée Vague d'Espoir, qui avait pour but l'évangélisation des îles, c'est-à-dire qu'il fallait prendre la mer, l'évangélisation des îles associée à la navigation. Ce pasteur avait eu à cœur l'évangélisation des îles que sont l'île aux moines dans le golfe, en dehors du golfe, en pleine mer, Dick, Watt, Belle-Île. Et nous avons navigué vers chacune de ces îles, cherchant chaque fois le contact avec les populations insulaires. Et à chaque personne rencontrée, de remettre un évangile de Jean. Cela nous a valu de bons contacts, même avec M. le curé de Belle-Île, de la paroisse du Palais. Hein ? Il avait pris d'ailleurs plaisir à nous mettre à disposition sa salle paroissiale pour trois soirées. Et là, nous avons annoncé l'évangile. Et il est venu d'ailleurs un soir pour en discuter avec nous, pour échanger avec trois ou quatre de ses paroissiens. Notre expérience sur l'île de Watt, l'un d'entre nous fit la rencontre de l'ancien boulanger de cette île. Je l'ai aperçu, je ne lui ai pas parlé, mais je l'ai aperçu, c'était un homme magnifique. Il venait tout juste d'être à la retraite, un bel homme. Hein. Quelqu'un qui était classe, m'a-t-on dit, dans sa manière d'être, de manière posée, réfléchie. Et cet homme avait porté de l'intérêt pour l'évangile qui lui avait été remis. Quelques mois après, par la presse, nous apprenions que l'ancien boulanger de l'île d'Ouatt avait été rappelé, était décédé. Voilà. Il y avait eu urgence pour lui d'avoir connaissance de l'évangile et de faire la paix avec Dieu. N'y a-t-il pas aujourd'hui parmi nous pour quelqu'un l'urgence que Jésus entre dans son cœur, dans sa vie ? Alors je ne vous dis pas, armez des deux mains des bateaux, prenez la mer et partez à l'aventure, c'est peut-être pas la période d'ailleurs de prendre la mer, mais laissons-nous Dieu nous montrer puis nous conduire vers les âmes pour lesquelles il y a urgence. On rejoint le don spirituel qui a été donné, wake up, wake up, wake up, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Un témoignage et je termine encore. Après une belle journée de navigation, rentré dans le golfe, en soirée, nous étant mis avec les bateaux à l'abri de l'île Longue. La soirée s'annonçait particulièrement douce. Le ciel était dégagé et quand la nuit est venue, toutes les étoiles s'allumaient les unes après les autres. C'était magnifique. Et il fut décidé donc à un moment dans cette nuit là qui était là, il fut décidé que l'on se regroupe sur le pont d'un des bateaux. C'était celui d'un ami prénommé Pascal qui aimait naviguer avec nous, qui était inconverti mais qui aimait naviguer avec nous et qui mettait d'ailleurs son bateau à disposition de l'association et ceci pour que nous ayons notre temps de méditation et de prière, de louange, comme nous avions chaque soir. Et là, dans la douceur de la nuit, tout à coup, une voix s'est fait entendre, elle s'est élevée vers Dieu, s'adressant en ces termes, « Sauve-moi, ô Dieu !» C'était cet ami, indécis jusque-là, qui criait à Dieu de le sauver, de lui venir en aide. Il n'était pas loin de minuit, lorsque chacun regagna sa banette pour se reposer. Mais le salut était entré ce soir-là dans le bateau de cet homme, je devrais plutôt dire, était monté à bord du bateau de cet homme, comprenez, dans l'intimité de son cœur, de son embarcation. Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je dure. Demeure aujourd'hui dans ta maison. Wake up, wake up, wake up. Réveillez-vous, frères et sœurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions regarder à Dieu et que Dieu nous montre les âmes qui sont à sauver et que l'on s'engage pour cela. Père, merci pour ta parole. Elle est puissante, elle est véritable. Elle est simple, elle est bonne pour nos cœurs, elle est salutaire. Aussi, je veux t'en remercier. Merci pour l'aide que tu m'as accordée, alors que toute la gloire t'en revienne. Que le nom de Jésus soit glorifié et que des âmes soient sauvées dans ce nom béni. Amen.